Presque écolo.
Presque écolo. Presque écolo.
Presque écolo.
Presque écolo.
Presque écolo.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la transition écologique. Nous sommes trois Lillois d'une vingtaine d'années, Salomé, Yann et moi-même, Louise, et nous avons été accompagnés et soutenus dans ce projet par Manon. On démarre dans la joie et la bonne humeur puisque nous allons parler d'anxiété.
Donc bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que la situation climatique actuelle et future vous inquiète? Si oui, vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou solastalgie. Inventée à la fin des années 90 par la chercheuse en santé publique Véronique Lapège, ce terme, qui réunit les mots écologie et anxiété, exprime le mal-être que peuvent ressentir certaines personnes vis-à-vis de l'état écologique de la planète. Réchauffement climatique, chute de la biodiversité, incendie, bouleversement des précipitations. Tant de termes qui inondent les médias et qui peuvent, chez certains, provoquer une angoisse viscérale du futur, mais aussi, en un sens, gâcher le présent. Mais alors, comment ce phénomène peut-il se manifester? Pour le savoir, j'ai demandé à une amie de nous partager son expérience. Je la laisse se présenter.
Donc, je m'appelle Julie, j'ai 22 ans et j'étudie l'environnement, la santé, la sécurité et la toxicologie.
Pour débuter l'entretien, j'ai voulu lui demander ce que, pour elle, l'éco-anxiété signifiait.
Alors pour moi, l'éco-anxiété, c'est plus tout ce qui est mal-être et sentiment d'angoisse lorsqu'on pense à l'environnement, au réchauffement climatique, à toutes les catastrophes naturelles en fait, qui arrivent en ce moment.
Suite à cela, je lui ai demandé si elle se sentait elle-même éco-anxieuse.
Je pense pas que j'en souffre énormément comparé à d'autres personnes, par exemple. C'est plus où, généralement, quand ils en parlent à la télé.
D'accord.
Franchement, quand ils parlent du réchauffement climatique ou des différents rapports qu'il y a eu, je me dis, de toute façon, qu'est-ce qui va arriver plus tard, quoi.
Ouais.
On sait que dans tous les cas, là, c'est la planète, elle est un peu en...
Il est intéressant ici de noter que le ressenti vis-à-vis de la situation écologique peut prendre différentes formes. Il n'est pas forcément linéaire, ni quotidien, peut être plus ou moins important en fonction des jours et en fonction des autres également. Enfin, si vous avez bien suivi, Julie nous a dit au début de l'interview étudier l'environnement. J'ai donc voulu savoir quel impact avaient ces études sur ce sentiment.
Alors je pense que les études, ça augmente l'anxiété.
Ouais. Vraiment
parce que on étudie l'environnement, on étudie les différents rapports entre les différents comportements, tout ce qui est air, sol, les polluants. Et on étudie aussi des catastrophes naturelles, quoi. Donc ça augmente beaucoup l'anxiété et l'angoisse.
Ici, j'imagine que je ne vous apprends rien. Cela paraît plutôt logique. Plus on a d'informations, par les études, les réseaux, les médias, plus on a de risques que cette abondance de négativité provoque de l'anxiété. Dans cette histoire donc, heureux sont les ignorants, ou tout du moins ceux qui veulent l'être. Dans une vidéo pour la RTS, le docteur Marc Grand-Girard introduit l'éco-anxiété comme une problématique fondamentale de notre époque, sous-diagnostiquée et sous-traitée. Il décrit à ce propos trois phases reprenant ce que peuvent ressentir les personnes souffrant de solastalgie. Dans un premier temps, il peut y avoir une sorte de stress pré-traumatique, par analogie au stress post-traumatique. Ce stress pré-traumatique va anticiper les changements à venir. Les personnes peuvent alors ressentir une certaine sidération, une impuissance face à l'immensité des chantiers. En réponse à cela, une hyperactivité peut se développer pour tenter de faire changer absolument les choses. Malheureusement, l'issue de cette phase peut vite conduire à ce que le docteur Grand-Girard appelle un burn-out militant. Si la personne se disperse trop et si l'engagement prend le pas sur la vie personnelle. Enfin, les éco-anxieux peuvent finalement décider d'agir de manière plus ciblée et plus efficace, moins se disperser en somme. Il est primordial de noter que ces phases de sidération, d'hyperactivité et d'action ciblée peuvent se mélanger, se chevaucher ou s'interconnecter. Le parcours d'un éco-anxieux n'est évidemment pas linéaire et est soumis à beaucoup de facteurs extérieurs. Alors vous devez vous dire que tout ça n'est pas très réjouissant, et vous n'auriez d'ailleurs pas tellement tort. Cependant, Véronique Lapège tempère son constat, car qui dit prise de conscience, aussi pénible soit-elle, dit aussi volonté d'agir et responsabilisation. Il ne faut donc pas voir l'éco-anxiété uniquement comme un problème, mais aussi comme un moteur pour changer les choses, nuance à ce propos la chercheuse. Julie m'a d'ailleurs confié à la fin de notre entretien que le fait de travailler dans un futur proche à réduire les rejets industriels pouvait s'avérer être salutaire et rassurant dans ce flot d'informations angoissantes. Histoire d'aller encore plus loin, j'ai décidé d'interroger un spécialiste dans le domaine. Je le laisse se présenter et introduire ses deux champs d'action.
Donc je me présente, Jean-Pierre Ledance. On distingue par
plupart du temps, l'éco-psychologie en tant que champ de recherche, élaboration de méthodologie, et l'éco-psychologie pratique ou en pratique, qui consiste, ce que j'ai pu faire à une époque, dans des ateliers, pour essayer de retrouver en tout cas une relation, un contact avec la nature qui soit, on va dire, plus sain.
Vaste programme donc. Maintenant, vis-à-vis de l'éco-anxiété en elle-même, Jean-Pierre Le Danf m'a fait part de ses interrogations quant à l'aspect réducteur de ce terme. Il m'a notamment parlé d'où pourrait provenir l'effet de mode qu'il a pu constater autour de ce thème, mais aussi de pourquoi, selon lui, ce terme ne reflète qu'une partie de ce que peuvent ressentir ses patients.
Ça vient justement de la surmédiatisation. C'est parti du journal Le Monde, je crois, en France, et puis du Huffington Post, où on consacrait des gros dossiers, très intéressants d'ailleurs, des gros dossiers à l'éco-anxiété. Et alors, à la suite de ces articles, donc ça a créé effectivement un buzz, quoi. Et c'était à chaque fois éco-anxiété. Au point que, dans certains interviews, j'ai carrément exprimé mon agacement de ce réductionnisme journalistique à une émotion. L'éco-anxiété, à mon avis, n'est pas la première émotion qui vivent les gens. En tout cas, moi, si je prends mon cas à moi, c'est sûrement pas l'anxiété. Je suis pas du tout anxieux. J'ai peur, à un certain moment, mais j'ai pas d'anxiété. Mais comme je me l'ai écrit, non, la colère, moi, je suis à chaque fois que je lis un article, qu'on relance le nucléaire ou le glyphosate, bon, c'est pas l'anxiété que j'ai, c'est l'éco-anxiété qui m'habite, c'est l'éco-colère. La honte aussi, j'ai rencontré dans des relations éco-thérapeutiques des femmes qui avaient honte d'être un être humain qui fait autant de dommages à la planète, donc c'est une émotion plus rare. La tristesse, alors la tristesse est bien plus partagée que l'éco-anxiété, bien plus partagée. Et puis le sentiment d'impuissance, qui est aussi une sorte d'émotion, et puis l'émotion la plus répandue, mais qui n'est pas à proprement parler une émotion, c'est le contraire, c'est le déni, ça, c'est autre chose, quoi.
Vous l'aurez compris, ce concept n'est finalement, pour reprendre une analogie écologique, qu'un arbre parmi une forêt de sentiments, tels que la honte, la tristesse, la colère, etc. Et en faisant des recherches complémentaires, je suis tombé sur le terme de souffrance écologique, qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus adapté, et qui m'a permis d'éviter subtilement l'agacement de mon interlocuteur. Cependant, parmi tous ces ressentis, un a retenu mon attention tout particulièrement, le déni. En effet, il pourrait être intéressant de prendre la problématique initiale à l'envers, en se disant que finalement, le problème n'est pas tellement l'éco-anxiété, mais bien l'éco-déni. C'est pour sûr ce refus, conscient ou pas, de voir la situation en face, qui entraîne l'inaction écologique et le rejet en bloc de tout autre mode de développement que la sacro-sainte croissance. Enfin, pour clôturer l'entretien, j'ai demandé à Jean-Pierre Le Danf comment ses patients abordaient l'après-prise de conscience.
Déjà, c'est moi que vous interviewez, et comment elles ont pris, comment elles abordaient la suite, elles consultent un éco-thérapeute. Voilà, déjà, comment elles abordent la suite pour essayer de gérer leur souffrance, leur tristesse, leur colère, leur anxiété également. C'est plutôt à la fin de l'éco-thérapie que je peux tenter d'apporter quelques éléments de constat. C'est très variable. Une fois que les personnes, en fait, moi je me référerais plus au travail de deuil, qui reste un super modèle par rapport à tout ce qui est deuil, hein, deuil de la vie sur la terre, deuil de la perte d'un ami ou d'un membre de sa famille, deuil de perdre un emploi.
Alors, avant de continuer, un petit point très rapide s'impose sur les phases du deuil développées par Elisabeth Kubler-Ross. Nous avons donc dans l'ordre le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Nous avons tenté de passer en revue une partie de ces étapes dans le cadre de la problématique environnementale.
Je pense que la plupart des gens sont dans le déni de la magnitude du secteur écologique. Et puis après, alors ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui sont en train d'aborder la dépression. Voilà. C'est ceux-là, alors ils font vraiment face à leur souffrance. Ils ont compris qu'on est dans une situation écologique absolument catastrophique, probablement irréversible. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc, à un moment donné, une remontée de la dépression, une confrontation avec cette réalité terrifiante, parce que je pense que même les scientifiques aujourd'hui n'hésitent pas à utiliser ce mot terrifiant. Donc, une fois que l'acceptation, non pas l'acceptation au sens, c'est bien, on va faire avec, non, l'acceptation au sens, oui, c'est la réalité. Alors là, il y a plein de... Moi, je ne propose rien, c'est pas mon rôle, je suis gestalt praticien, gestalt thérapeute, donc j'aide les personnes à trouver ce qui leur convient. Là, il y a des personnes, toutes sortes de réactions, on va dire, tout bêtement. Certains vont se résigner, ouais, vous n'avez pas de résignation, bah oui, il y en a qui vont, des personnes qui vont être résignées, mais elles savent pourquoi, elles vont souffrir, on va être résignées. Et puis il y a d'autres, surtout chez les jeunes. Alors les jeunes, au contraire, ça va les galvaniser, certains jeunes en tout cas, pas tous, loin de là, mais là, ça va, l'acceptation du constat va les galvaniser. Donc l'énergie de la colère, l'énergie de la honte, l'énergie de la peur ou quoi que ce soit, et ils vont la mettre dans de l'action. Voilà. Et puis d'autres, rien de plus, d'autres, vous l'avez dit comme moi, des couples qui décident de ne pas faire d'enfants parce qu'ils ne veulent pas mettre au monde quelqu'un. Un garçon, une fille ou plusieurs qui seraient malheureux. Et il y a toutes sortes de réponses. C'est vraiment fonction de la singularité de chacun.
Une fois la prise de conscience effectuée, donc, la réponse qui sera apportée dépendra de beaucoup de facteurs, tels que votre motivation à vous engager, le fait d'être en couple ou pas, le fait de vivre à la campagne ou à la ville, etc. J'ai également eu l'opportunité de contacter d'autres psychologues à ce sujet, notamment Monsieur Lefebvre, qui pratique depuis 2013 à Lille. Celui-ci m'a avoué ne pas rencontrer au sein de sa patientèle de personnes le consultant pour ce sujet en particulier. L'angoisse liée à la situation climatique actuelle peut être évoquée, mais s'inscrirait dans une prise en charge plus globale de l'anxiété, au même titre que le Covid ou la guerre en Ukraine. En somme, c'est un sujet parmi tant d'autres qui peut préoccuper les gens, sans pour autant que cela soit un motif de consultation primaire. Pour étayer tout cela, j'ai interrogé une dernière personne.
Alors, moi je m'appelle Quentin, je suis psychologue clinicien. Depuis maintenant 6 mois, je travaille dans l'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire que je propose des entretiens psychologiques aux personnes qui sont justement dans des problématiques d'insertion.
Alors, j'ai décidé de solliciter Quentin pour 3 raisons. Déjà, il est sympa. Ensuite, son domaine professionnel implique de travailler avec des personnes de tous horizons, de tous milieux sociaux et de tous âges, offrant un panel relativement varié. Enfin, ce n'est pas particulièrement un spécialiste du sujet, et si l'avis des spécialistes est très enrichissant, le point de vue du reste de la profession l'est tout autant. Ainsi, je me suis permis de lui demander, pour commencer, sa propre définition de l'éco-anxiété.
Alors moi, en fait, le terme, déjà, c'était la première fois que j'entendais, j'avoue. Okay. Parce qu'en fait, moi, ce concept d'éco-anxiété, c'est pas une pathologie dans le sens où... c'est pas référencé, c'est pas par exemple quelque chose qu'on va retrouver dans le DSM-5. Et je pense qu'en fait, le caractère de l'éco-anxiété, ça serait de venir définir de manière précise un type d'anxiété, qui est là une pathologie que tout un chacun peut développer et qui du coup se concentrerait sur donc une appréhension générale, mentale et physique, autour de la question écologique. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose, et au vu des quelque chose que j'ai pu lire sur le sujet, c'est comme ça que je définirais le concept.
On pourrait noter ici quelque chose de paradoxal, c'est que ce thème peut être considéré comme surmédiatisé, comme dit précédemment, tout en étant non référencé officiellement. Il serait donc ici une sorte de néologisme où le préfixe « éco » servirait à préciser le type d'anxiété. On pourrait l'imaginer exister pour d'autres thématiques, par exemple, pouvant engendrer cette émotion. Pour creuser un peu plus, j'ai voulu savoir précisément quelle place la question écologique pouvait avoir chez les gens souffrant déjà d'anxiété.
Alors moi, ce que je peux dire, c'est que effectivement, des personnes anxieuses, j'en rencontre assez souvent. Ça reste une problématique qui est assez répandue. Et si je passe en revue, voilà, parmi les suivis, les gens que j'ai pu rencontrer. Effectivement, c'est vrai que la question écologique, elle peut revenir, mais elle fait partie en fait d'un tout au niveau de l'anxiété, c'est-à-dire que une personne anxieuse va en fait développer tout un mécanisme de pensée qui va rendre le monde autour de lui potentiellement dangereux, potentiellement inquiétant. Et effectivement, la question de l'écologie, du réchauffement climatique, tout ça, en fait, ce sont de base des données qui sont anxiogènes. C'est-à-dire qu'une personne lambda, si elle regarde un documentaire, si elle lit un article autour de ce réchauffement climatique, elle peut avoir un sentiment d'appréhension, de se dire que quelque chose de grave est en train d'arriver et d'être confrontée aussi à ce côté impuissance, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut régler en un claquement de doigts sur l'instant. Et c'est là où en fait pour la personne anxieuse, cette question de l'éco-anxiété va venir un petit peu alimenter quelque chose qui est déjà là, c'est-à-dire la perte de contrôle de son environnement, l'appréhension d'événements pas encore arrivés, qui pourraient peut-être arriver et qui seraient source de souffrance. Et donc forcément, le caractère écologique vient presque comme se rajouter aux troubles anxieux déjà de base présents.
Cette incertitude écologique et l'impuissance qui s'en dégage viendraient alors simplement se planter dans le terreau déjà fertile de l'appréhension et de la sensation de perte de contrôle. Mais alors, ce mécanisme touche-t-il plus particulièrement les jeunes ? J'ai posé la question à Quentin.
Alors, je n'ai pas fait de statistiques avec ces données, donc je pense que c'est très biaisé à mon avis. Moi, j'ai plutôt une impression de quelque chose de diffus, parce que... Je pourrais pas dire que j'ai en tête forcément une catégorie type de personnes. C'est plutôt un panel assez large qui peut aller d'une jeune personne adolescente à des personnes qui sont proches de l'âge de la retraite et qui s'inquiètent également de ce qu'ils vont laisser pour leurs petits-enfants. Donc non, moi là-dessus, je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez répandu. En tout cas, parmi les personnes que je suis, à l'échelle de toute une population, ça, je ne pourrais pas dire.
Okay. Loin des clichés, donc, la souffrance écologique ne concerne pas que les plus jeunes. Encore trop tabou, elle touche pourtant des personnes de tous horizons et de tous âges. Mais alors, existe-t-il des moyens de gérer cette anxiété ? J'ai demandé à Julie sa manière à elle de réduire ce sentiment.
J'en ai pas vraiment, parce que quand j'y pense, généralement, je suis toute seule ou... quelque chose comme ça. Enfin oui, je suis généralement toute seule en fait. Et du coup, soit je pense à autre chose. D'accord. J'essaye de penser à autre chose, je vais sur les réseaux, mais bon. Ça, généralement, c'est pas top top. Mais sinon, quand je suis chez moi, je pars à la mer, faire un tour. Avant de l'air frais, ça change un petit peu quand même.
Se reconnecter à la nature, aux grands espaces, à l'air frais et au moment présent, c'est ce que recommandent nombre de thérapeutes. Certains même en proposant des thérapies dehors ou dans les bois. J'ai également posé ma question à Quentin, en tant que professionnel, de savoir quelle réponse pourrait être apportée.
Alors, là-dessus, moi, ma réponse, forcément, ça va être une réponse de thérapeute. J'encourage vivement chaque personne qui peut rencontrer ce type de problématique à se lancer dans le monde merveilleux de la thérapie, qui est aussi enrichissant que qui demande extrêmement d'efforts. Mais voilà, moi je pense que en fait, ça je peux répondre de manière générale, par exemple par rapport à l'anxiété, c'est que souvent on a tendance de croire à tort qu'il s'agit là de peurs non fondées, non justifiées. Moi j'irai pas vers cette voie-là. Moi je préfère toujours dire que une peur, il est tout à fait possible, en fait, de la mettre en perspective d'une réalité. Et que, par exemple, s'inquiéter de la situation écologique, moi, je pense, du point de vue personnel aujourd'hui, que c'est important de s'en inquiéter, mais que on n'est pas forcément obligé de passer par tous les mécanismes de l'anxiété pour s'en rendre compte. Par exemple, il y a des moyens, je pense... notamment en passant par des actions concrètes qui peuvent en fait retirer cette impression d'impuissance dont on parlait au début, qui est en fait ce qui est directement relié à cette anxiété, cette impression qu'on ne peut rien faire, que la menace imminente arrive. Essayer de rendre cette menace moins menaçante, moi je pense que c'est un petit peu le meilleur moyen de lutter contre l'éco-anxiété.
De ces échanges, il en ressort pour moi plusieurs questions. L'éco-anxiété est-elle sous-diagnostiquée ou au contraire surmédiatisée ? Cette angoisse n'est-elle pas inhérente à l'omniprésence d'informations ? Le monde se divise-t-il en un groupe éco-anxieux et un autre dans l'éco-déni ? Évidemment, tout cela est bien moins dichotomique et bien plus complexe. Mais toujours est-il que ces discussions m'ont permis de nuancer la vision que je pouvais avoir de l'éco-anxiété. Une chose est sûre, les personnes ressentant cette souffrance ont le droit à une prise en charge adaptée et ont le droit d'être écoutées. Cependant, il est sain de rappeler que tout le monde n'en souffre pas forcément, et cela sans forcément vivre dans le déni plus total. L'époque complexe dans laquelle nous vivons offre beaucoup d'autres motifs de tourment pour lesquels d'ailleurs il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel si on en ressent le besoin. Pour terminer cette chronique, je vais emprunter les mots de M. Le Danf qui m'a confié à la fin de notre entretien, de point ouvrir les guillemets, « Je suis, malgré cette situation catastrophique qui peut me terrifier, très apaisé aujourd'hui. » Fermez les guillemets. C'est donc peut-être ça une des clés du bien-être, que ce soit dans l'action, dans la parole, dans la lutte ou dans l'écoute. Il est bon de trouver sa manière de se sentir apaisé dans cette tempête.
Eh bien, c'est agréable d'entendre parler de ces ressentis humains. Merci beaucoup, Yann, pour ton intervention. Et maintenant, j'aimerais vous raconter une petite histoire.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique. Ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins. C'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survette. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survette? Il sort 12 survettes.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et tram. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana.
Cette histoire, c'est le rappeur Orelsan qui nous la raconte avec son titre « Baise le monde ». Vous êtes toujours sur RPL Radio, moi c'est Louise et je suis toujours avec Salomé et Yann. À mon tour de vous raconter une petite histoire. Récemment, j'ai eu un coup de cœur pour une femme. Toujours accompagnée de ses colliers en or superposés et de ses bottines en cuir noir, elle prend plaisir à être élégante. C'est une personne très cultivée, mais elle ne le fait pas ressentir. Elle parle très vite, comme si elle avait peur de déranger. Et quand elle s'adresse à quelqu'un, elle aime le regarder dans les yeux. L'impression que son physique renvoie contraste complètement avec son dynamisme. Son visage marqué par les années ne laisse en rien présager de l'énergie débordante et de l'engagement qui la caractérise pourtant. Monique a 70 ans. C'est une personne que j'admire et à qui j'aimerais m'adresser. Chère Monique, je t'ai rencontrée il y a quelques mois à l'EHPAD dans lequel tu rends bénévolement visite à plusieurs résidentes. J'étais surprise de voir cette femme d'1m55 aux cheveux grisonnants si dynamique et engagée. Tu aimes l'humain et tu lui dévoues tout ton temps. Tu luttes pour que les gens ne désespèrent pas et tu agis pour la planète à ton échelle. Certains jours, tu conseilles des personnes sans emploi et les encourages à entrer dans la vie active. D'autres, tu es bénévole à Emmaüs. D'autres encore, tu te rends à l'EHPAD dans lequel vivait ta mère avant son décès. Si tes visites font du bien au moral des résidents, tu en profites aussi pour collecter les sucres et les spéculoos qu'ils n'ont pas consommés. Ensuite, tu en fais don au Secours populaire. D'une part, les résidents ont la sensation de contribuer à une chose utile, et d'autre part, ces produits ne sont pas inutilement jetés. Et oui, parce qu'humaniste et féministe, tu es aussi écolo. Pour toi, on ne peut pas être pleinement solidaire si on ne fait pas attention à la planète. D'autant plus quand le dernier rapport du GIEC conclut qu'environ 3,3 milliards de personnes vivent dans des conditions de vulnérabilité face au changement climatique. Être vulnérable au réchauffement climatique, c'est le fait d'être significativement exposé à ses conséquences. Mais alors, quelles sont ces conséquences ? Eh bien, le réchauffement climatique va entraîner la baisse de la qualité des récoltes et des difficultés d'accès à l'eau, mais également l'accroissement de maladies infectieuses et de morts liées à la chaleur, sans parler aussi de la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes comme les méga-feux, inondations et canicules, qui auront de lourds impacts économiques et causeront de nombreux décès. Chère Monique, je me souviens de la fois où tu m'as parlé avec colère du déménagement de tes voisins. Ces deux jeunes parents avaient choisi de laisser leurs meubles sur le trottoir. Toi, qui se souciais tant de la planète, tu ne comprenais pas ce geste. Tu n'as pas été maman et tu es consciente que la plus grande partie de ta vie est derrière toi. Pourtant, ça ne t'empêche pas de t'inquiéter pour l'avenir. Tu me le disais bien, il est encore possible de limiter le changement climatique si on agit dès maintenant en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. L'ampleur et le rythme du changement climatique dépendent fortement du comportement humain à court terme. Je sais que tu aimerais qu'on soit tous plus responsables dans nos manières de consommer. Et dire que certains jeunes n'ont pas cette sensibilité, ça te met en rogne. Aujourd'hui, mais qui oserait t'en vouloir pour ta colère ? Pas moi en tout cas. Moi, ton engagement me touche. Et Monique, en attendant que les recommandations du GIEC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sortiront le 4 avril, je voudrais te remercier pour le modèle que tu incarnes. Car si nous étions tous plus engagés, tout serait plus simple. J'ai questionné quelques personnes sur leur sensibilité aux problématiques environnementales et sur les actions qu'elles effectuaient au quotidien. À la question « Est-ce que vous vous sentez concerné par les problématiques environnementales ?», les personnes m'ont répondu
« Bien sûr, c'est un sujet actuel.
Pas assez. En tout cas, c'est assez compliqué de le faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment arriver de plus en plus dans ma vie, si je peux. C'est vraiment une question dans l'ordre du jour. Du coup, forcément, oui.
Oui, plus ou moins, oui.
Oui, je sais.
Un peu, je veux pas entendre trop parler, je veux pas trop m'en occuper. Je suis pas très, très sensible.
Oui.
Oui. Un maximum.
J'ai demandé à ces personnes de quelle manière ils agissaient en faveur de l'environnement.
J'essaie de prendre le plus possible de transport en commun, le Vélib. Après, pour tout ce qui est vêtements, j'essaie de pas trop acheter. Donc je vais dans les friperies ou des trucs comme ça.
Je pense que je pourrais essayer d'utiliser encore plus les transports en commun. J'ai pas spécialement d'idée, mais j'espère que j'en serai capable.
Quand je dois prendre des décisions pour le futur, surtout sur un plus long terme ou sur des actions que je sais que je peux mettre en place et que ça fait pas trop de restrictions, je le fais. Par exemple, je travaille dans mon club et je préfère... J'ai fait en sorte de mettre en place des éco-cups plutôt que des verres en plastique, ou j'évite qu'on fasse trop de campagnes de flyers, par exemple.
Faisons attention à mes déchets. Trier correctement, aller à la déchetterie et en élevant mes petites poules.
Je fais le tri de mes poubelles, hein, et je veux bien faire des choses comme ça, mais après, Par exemple, prendre ma voiture pour aller quelque part, je ne me pose pas la question. Je prends ma voiture, j'y vais, quoi. Donc, je pense que je pourrais faire un effort. Aller prendre deux fois sa voiture pour faire la même chose côte à côte, quoi, c'est con, quoi. Autant dire, je fais une seule fois le trajet, quoi.
J'essaie de plus en plus de me diriger vers le zéro déchet. J'essaie de faire mes propres produits d'entretien. Je cuisine beaucoup moi-même. J'évite d'acheter des plats tout faits, ce genre de choses. Je fais attention au tri. Voilà.
En prenant par exemple que des douches au lieu des bains, en recyclant un maximum et en me déplaçant plus en transport en commun qu'en voiture.
Il y a eu plusieurs réponses intéressantes. Et ce qui est important à retenir, c'est que chacun peut agir à son échelle, parce qu'une petite action est toujours mieux que l'inaction. L'industrie du pétrole est la plus polluante. Alors, sans parler de faire tous ses trajets à pied ou de se déplacer à cheval, à la campagne, on peut minimiser ses allers-retours, et en ville, on peut utiliser les transports en commun. Ensuite, l'industrie du textile est la deuxième plus polluante après l'industrie du pétrole. Mais on ne demande pas à chacun de concevoir ses propres vêtements. On pourrait commencer par éviter les achats superflus, parce que a-t-on vraiment besoin de 3 vestes par saison? Et quand nous achetons, nous pourrions favoriser les achats de seconde main. En fait, on ne demande pas aux gens d'arrêter de se chauffer ou d'installer des toilettes sèches chez eux, mais on peut retenir que la meilleure énergie, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas. Et on ne demande pas non plus à chacun d'être autosuffisant en cultivant un potager et en élevant des animaux pour se nourrir, mais on peut tout de même consommer mieux en achetant des légumes de saison et des produits locaux. Agir à l'échelle individuelle et consommer de manière responsable, c'est accepter sa part de responsabilité dans le monde. Je pense qu'on n'a rien à y perdre. Et qu'est-ce qu'on risque en fait, à part inspirer d'autres personnes? Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça le temps d'une chanson. On écoute ensemble « Parents » de Ben Mazuet. A tout de suite.
Sur les bords de l'aire de jeu, bien installés tous les deux, on refait le film. Deux amis inséparables, c'était inévitable. On a fait nos vies, on n'a pas pris les mêmes routes, on combat pas les mêmes doutes. Ici personne n'a raison ou tort. Toi t'étais déjà en couple et vous disiez d'un même souffle qu'il n'y aurait non pas d'enfant à bord. Tu dis, on commence à être beaucoup quand même, qu'il faudra bien qu'on comprenne. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de ceux qui restent. Y'a largement assez de vivants pour tout l'amour que t'as dedans. Les parents qui te disent un par un que quand même c'est pas rien que tu pourrais regretter demain. Parents, parents, je dois dire que je sais pas très bien. Est-ce que vous vous permettriez, vous, de regretter vos gamins? Bien sûr que non. Son parti. Nous on se dérange peu quand on se voit, c'est qu'à deux, mais ça vaut le coup, ça vaut tellement le coup. Je suis content de ce que tu deviens, t'as toujours cet air serein que j'envie beaucoup. Vous avez fait ce que vous vouliez, n'aviez pas que des alliés, vous avez connu des orages quasi constants. Toi tu sais plus la violence, pourtant t'en as bien conscience quand on vous dit. Et vous deux c'est pour quand? Tu dis que t'as pas perdu la raison. La famille c'est plein de conjugaisons. On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de la vie qui nous reste. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. Comme s'il allait s'envoler, un enfant se prépare en haut du toboggan. Si le vent s'est levé, on reste jusqu'au soir, toi et moi sur le banc. Les parents qui te disent un par un que quand même c'est pas rien que tu pourrais regretter demain. Parents, parents, je dois dire que je sais pas très bien. Est-ce que vous vous permettriez, vous, de regretter vos gamins? Tu dis qu'on commence à être beaucoup quand même, qu'il faudra bien qu'on comprenne. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de la vie qui nous reste. Y'a largement assez de vivants pour tout l'amour que t'as dedans. Que t'as pas perdu la raison. La famille, c'est plein de conjugaisons. Qu'on peut peux choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de ceux qui restent. On peut choisir sereinement.
On vient d'écouter Parents de Ben Mazuet. Vous êtes toujours sur RPL Radio. Aujourd'hui, on parle transition écologique. Alors, après avoir parlé des actions réalisables à l'échelle individuelle, on va élargir le sujet à l'échelle entrepreneuriale avec Salomé.
Bonjour. Donc, aujourd'hui, la transition écologique peut faire rêver, mais elle peut aussi faire peur. La nécessité de faire un geste conséquent pour la planète est donc établie. Seulement, si les entreprises et les industries changent de fonctionnement, on peut s'inquiéter quant à la stabilité des emplois. Les secteurs sont en effet déjà fragilisés par la taxe carbone ou encore les réglementations concernant les émissions de gaz à effet de serre. L'industrie devra alors se transformer. Il y aura en effet des transformations négatives pour ces secteurs fragilisés, ce qui pourrait s'avérer très violent. Mais donc, il faut se préparer en créant de nouveaux emplois. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect positif, en notant que malgré tous ces changements qui peuvent paraître alarmants, la transition écologique va notamment créer un grand nombre d'emplois. En effet, un rapport présenté par un groupe d'ONG et de syndicats, 1 million d'emplois pour le climat, présente une grande instauration d'emplois due au dérèglement climatique dans la transition écologique, ainsi que d'autres domaines tels que les énergies renouvelables. Et donc, quels pourraient être ces emplois? De formations souvent ingénieurs ou même financières, de nouveaux jobs se développent. Nous avons par exemple le manager Decarbonation, consistant à alléger l'empreinte carbone de l'activité de l'entreprise. On peut donc retrouver ce travail dans des secteurs tels que le transport, la construction ou encore les infrastructures. Nous avons aussi le chef de projet biodiversité. Celui-là devra minimiser l'impact négatif de l'activité humaine sur le milieu naturel. Il devra alors évaluer l'impact des activités de l'entreprise sur la préservation de la faune et la flore et proposer des pistes d'amélioration. Ce métier peut se trouver dans les secteurs du vivant, donc l'agriculture et la grande distribution bien sûr, mais aussi la mode et la cosmétique. Il y a encore d'autres métiers portés sur le climat, tels que chef de projet climat, qui se charge de mettre en phase l'entreprise avec les accords de Paris sur le climat. Il y a bien aussi ces nouveaux travaux du quotidien, comme responsable d'achat durable ou bien réparateur dans un repair café. Ces repair cafés sont des ateliers de réparation collaboratifs. Des bricoleurs se retrouvent pour partager leur savoir-faire avec des personnes qui apportent leurs objets en panne pour les réparer tous ensemble. Ils se retrouvent dans la bienveillance et la bonne humeur pour redonner une seconde vie à leur objet. Donc en plus d'être un métier en faveur du développement durable, celui-ci s'effectue dans un cadre accueillant. Principalement, tous ces nouveaux métiers permettent de travailler sur la réduction de consommation d'énergie d'une société et sur de nouveaux moyens permettant de concilier production et respect de l'environnement. Car cette thématique s'annonce en effet être un nouveau défi pour les années imminentes. Et donc maintenant, pour cerner concrètement cette problématique écologique dans l'entrepreneuriat, j'ai contacté quelqu'un qui nous fera part de son expérience. Bonjour Grégoire, tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Parfait. Alors avant de commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
Yes, alors bonjour, je m'appelle Grégoire Linné et je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Garta Bécane, donc d'une start-up qui vise à améliorer l'expérience de stationnement de roues en ville principalement.
D'accord, et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne ?
Tout simplement, on a une plateforme de mise en relation, on appelle ça une marketplace, qui permet de référencer d'anciennes places voitures que nous, on a transformées en places moto, en plusieurs places moto. Donc on appelle cela la colocation de parking de roues, ce qui nous permet d'un côté d'avoir des prix attractifs pour les utilisateurs scooters motards, et de l'autre, de rendre la rentabilité du parking meilleure pour son propriétaire. Donc aujourd'hui, on travaille avec des particuliers, mais également des sociétés de parking, des bailleurs sociaux, des copropriétés et plein d'autres acteurs du parking pour permettre de gérer cette mise en relation pour tous les utilisateurs.
Très bien, et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment est né ce projet ?
Alors ce projet, il est né à la base avec deux amis justement, Victor et Barnabé. On voulait investir dans une place de parking, mais on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir du temps et de l'argent à la base, ce qu'on n'avait absolument pas. Et voilà, et deux d'entre nous sommes motards, et on a eu dire des vents du stationnement qui devient payant sur Paris, etc. Et là voilà, ça a fait boom dans nos têtes. On s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser cette colocation de parking de roues qui se faisait déjà un tout petit peu à l'époque, pour répondre à ses futurs besoins dans les villes, de garer son véhicule, sa moto ou son scooter de façon accessible et pas chère et adaptée en ville tout simplement.
Très bien. Et du coup, en quoi ta start-up elle est engagée dans la transition écologique?
Nous, on a plusieurs axes de développement. Et il y en a un qui est très important, notamment, c'est les deux roues motorisées électriques. Donc, on parle de moto et de scooters électriques, qui sont aujourd'hui pas nos clients, mais on aimerait beaucoup, pour la simple et bonne raison qu'il faut équiper les places de parking avec des bornes de recharge électrique. Ça a un coût. Aujourd'hui, on est une petite société, on n'a pas forcément toute la trésorerie pour pouvoir développer cette offre. Cependant, on pense toujours au futur et à l'expérience utilisateur future. Et pour nous, c'est un point très important. On est en train de développer des choses en interne, notamment des adaptations de recharge pour les scooters et pour les motos qui ne sont pas toujours compatibles avec les prises de recharge de voitures qui sont déjà installées dans certains parkings. Voilà, donc on est en train de déposer des brevets, travailler sur des projets qui sont en interne. Bon, je préfère pas trop en parler pour l'instant, mais pour répondre à cette demande, le nombre d'utilisateurs de motos et de scooters électriques est grandissant, notamment pour des questions écologiques, pour des questions de prix du carburant, pour des questions de facilité de stationnement. En effet, les motos et les scooters électriques ne seront pas affectés par la mise en place du stationnement payant à Paris, dans la sur la voirie. Donc c'est un plus aujourd'hui de se convertir à l'électrique. Nous, on souhaite également, via notre début de communauté et via nos clients, accompagner ce changement. C'est un changement qui ne peut pas se faire d'un coup pour tout le monde. C'est des petits réflexes au quotidien. C'est montrer que le scooter électrique, c'est aussi bien et qu'on est, nous, une boîte esprit bécane, esprit motard, esprit scooter, esprit... gros moteur, on va le dire, mais on est conscient dans notre génération et on veut accompagner cette évolution de la mobilité, qu'elle soit par le scooter électrique ou par la moto, parce que de toute façon, aujourd'hui, une trottinette électrique ne permet pas de se rendre en banlieue, ou même un vélo électrique, c'est quand même assez limitant, surtout dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, à Lille, ça le fait encore un petit peu, mais voilà.
Et du coup, dans l'idée, en quelques mots, qu'est-ce que ça suffirait pour toi d'être engagé?
Pour moi, être engagé, c'est avoir un projet, donc engager personnellement des convictions, mais dans l'entreprise, dans la société, c'est avoir un projet avec des valeurs fortes, s'y tenir, et toujours regarder dans la même direction, c'est-à-dire ne pas, pour X ou Y raison, retrousser chemin dans la direction et la vision qu'on s'est donnée au début de cette boîte. On a plusieurs convictions, et nos convictions sociales et écologiques, de promouvoir la valeur du partage autour d'un parking, promouvoir le partage de gens qui habitent dans une même ville, dans une même rue, et également les convictions d'accompagner les changements de ces nouvelles mobilités autour de la moto, l'univers de la moto, qui est assez dur à convertir aujourd'hui parce que c'est quand même une image forte de gros moteurs, etc.
Et donc, est-ce que cet aspect justement de la transition écologique, il vous a fait peur quand vous êtes lancé?
Alors oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les projets à forte valeur ajoutée écologique. Et ça, c'est un super plus, que ce soit par des organismes d'État, des incubateurs, des concours, etc. On est parti avec cette conviction. Elle n'est pas forcément évidente dans notre projet, elle n'est pas en premier lieu. Ce serait hypocrite de dire qu'on a un projet tourné autour de l'écologie et du social. Cependant, il y a toujours des leviers à actionner, des arguments et des visions à respecter, comme on s'est donné. Et il y a pas mal de difficultés, notamment sur le coût, j'en parlais tout à l'heure, le coût d'installation d'une prise de recharge dans un parking, avec l'accord du partenaire, avec les points d'électricité, etc. Il y a pas mal de choses à faire, et il y a beaucoup de coûts qui sont engendrés lorsqu'on veut utiliser avoir le moins d'impact sur l'empreinte carbone de notre société. Aujourd'hui, par exemple, on fait de la conciergerie sur Paris. On essaye de se déplacer en transport en commun, et on se déplace uniquement en transport en commun d'ailleurs, en transport en commun ou en vélo, directement sur Paris. Parce que de toute façon, avoir une voiture à Paris, c'est un enfer, et de deux, c'est pas la bonne solution lorsqu'on essaye de respecter notre vision et nos envies. C'est des aspects qui sont assez fort, qui nous dirige un peu tous les jours, mais c'est pas forcément facile de vouloir tout faire tout bien dès le début, surtout en termes de coûts et en termes d'investissement, surtout quand on part de pas grand chose, même de rien,
Et du coup, pour toi, la plus grosse difficulté dans le lancement de votre start-up, ça a été principalement, surtout au niveau de l'aspect de la transition écologique, c'était principalement financier, ou il y avait aussi d'autres difficultés?
Sur l'aspect écologique, c'était principalement financier, et aussi également sur un petit peu technologique, sur cette adaptation de prises de recharge pour les motos, les scooters. Aujourd'hui, c'est des prises, c'était pas mal de prises domestiques, et les prises de recharge voitures qui sont bien plus puissantes n'étaient pas forcément toutes adaptées. Aujourd'hui, il y a des solutions qui ne viennent pas de nous, mais qui sont en train de sortir et qui sont super bien adaptées. Donc voilà, on était vraiment dans le flou, et le nombre d'utilisateurs de motos électriques, de scooters n'était pas encore assez grand pour pouvoir se projeter sur le marché. Donc on a fait le choix de tout simplement axer notre première communication sur tout ce qui est de roues motorisées, parce que dans tous les cas, on parle également, je m'égare un petit peu de la question, mais on parle également de pollution visuelle sur tout ce qui est bruit de moto, les motos garées sur les trottoirs, dans la rue, etc. C'est pas beau, c'est des choses, voilà, il y a des pollutions sonores, pollution visuelle. Nous, voilà, on travaille aussi sur cette transition de mettre toutes ces motos qui sont sur la voirie en sous-sol pour voilà, avoir une ville plus agréable avec moins de démarrage de scooters directement, même si bon, il y aura toujours des scooters et des motos qui feront vroom vroom à fond dans la ville, on peut pas l'empêcher.
Du coup, en quoi c'est indispensable aujourd'hui que toute start-up qui se lance, elle ait un investissement dans la transition écologique ?
Bah, ça c'est d'un point de vue sociétal, c'est indispensable dans un premier temps parce que voilà, on se rend compte qu'il va falloir se bouger pour sauver la planète, tout simplement. Et dans un second temps, c'est aussi, voilà, d'un point de vue un peu plus hypocrite, c'est aussi des arguments qui permettent d'accéder à certaines choses, ou que si on ne rentre pas dans les cases, que ce soit d'un point de vue social ou écologique, on se ferme des portes. Et donc, il y a aussi, je trouve ça super, tous les organismes qui aident, que ce soit des subventions privées, des subventions publiques, des organismes d'État, voilà, comme je disais tout à l'heure, des incubateurs, des accélérateurs, tournés autour de la green tech, ce qui permet de pousser les gens à créer des projets bien plus green qu'auparavant, à juste faire du business plus simple.
Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner, notamment pour se lancer dans ce genre de projet ?
Dans un premier temps, il ne faut pas avoir peur de contraintes de moyens. C'est-à-dire, imaginons que je sois étudiant et que j'ai envie de lancer une éolienne gigantesque parce que voilà, un truc démentiel qui est irréalisable dans les faits, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que voilà, faut se lancer, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut se lancer, intégrer des structures absolument, des incubateurs, que ce soit public ou privé, des structures qui nous aident, qui nous entourent d'autres entrepreneurs pour faire rebondir nos idées, pour échanger. Et rien n'est irréalisable dans le sens où, avec l'expérience, avec un petit peu d'argent, d'amorçage, avec des petits prototypes, avec des choses comme ça, toute personne est enfin voilà, on peut convaincre des gens après de mettre un peu plus d'argent et de faire tous les projets qu'on veut. C'est pas parce qu'on sait pas faire qu'il faut pas le faire. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie. Mon projet, notre projet, il est pas forcément technologiquement un truc de dingue. Au final, c'est une plateforme de mise en relation. On aménage des places, on rend service à des gens, que ce soit les propriétaires ou les utilisateurs moto et scooters. Mais au final, je me serais lancé, enfin on se serait lancé dans ce projet en ayant cette vision de ce qu'on allait faire. On a dit, jamais on pourra le faire, jamais on pourra le faire. Et en fait, c'est petit à petit, on a adapté notre offre, on a rencontré des gens, on a eu des conseils, on a eu de l'argent et on se développe et aujourd'hui on s'agrandit. Donc c'est vraiment chouette humainement parlant je suis content, quoi.
Parfait. Et donc, justement, tu nous parlais de ces structures qui aident, ouais, pour le lancement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors, il y a plusieurs types de structures. Il y a des réseaux classiques et il y a des incubateurs. Les incubateurs, c'est vraiment la première marche de l'entrepreneuriat. C'est des endroits où il y a des programmes qu'on peut suivre sous forme de cours, d'interventions, d'intervenants, etc., qui nous aident à affiner notre idée, à affiner le marché, à comprendre les enjeux autour de l'entrepreneuriat, etc. Et puis, une fois qu'on est dans une de ces structures, on peut évoluer au sein de cette structure sur d'autres programmes d'accompagnement avec des mentors qui nous suivent, des coachs, etc. Ensuite, il y a des réseaux. Moi, je pense à Réseau Entreprendre aujourd'hui, Nord, qui est quand même un réseau super prestigieux. Réseau Entreprendre, il y a le réseau Odéfi, il y a plein de réseaux qui t'aident dans du consulting entre guillemets gratuit, de pair à pair, pour avoir l'expérience d'entrepreneur ou de chef d'entreprise plus expérimenté sur des problématiques assez précises du style du management, plein de choses, et également qui font des leviers comme des prêts d'honneur qui permettent d'amorcer des projets qui sont non amorçables sans assez de fonds propres. Voilà, et puis voilà, il y a plein d'organismes et des labels. Il y a aussi cette question d'avoir un projet qui est labellisé, entre guillemets. Lorsqu'on rentre quelque part ou qu'on adhère à un réseau ou un incubateur, on a une petite étiquette. Il y a souvent de la sélection à l'entrée. On a une petite étiquette qui fait que notre projet n'est plus à un stade de projet de juste d'idée et d'un PowerPoint. On a une étiquette d'un gage d'une certaine qualité en fonction de la qualité du réseau, de prévisionnel financier, de chiffres, de projet qui tient la route, entre guillemets. Donc ça nous permet ensuite, par la suite, d'aller aborder des partenaires, d'autres sociétés avec plus d'aisance et plus de légitimité sur le marché, voilà, tout en développant notre offre business de l'autre côté.
Bah, parfait en tout cas, merci beaucoup, c'était très pertinent.
Et bah, merci à toi.
Ce témoignage nous offre alors un bel espoir pour l'emploi futur. Si l'on est motivé, on peut donc tout à fait se lancer dans un projet tout en jouant un rôle dans la transition écologique.
Merci beaucoup Salomé, c'était super intéressant. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Yann, Salomé et Louise sur RPL Radio. On vous souhaite une très belle journée.
Presque écolo.
Presque écolo. Presque écolo.
Presque écolo. Presque écolo.